Chapitre 7. Christ glorifié et l'Esprit donné. Le chapitre 5 a présenté le Fils de Dieu donnant la vie à qui il veut. Le chapitre 6 a montré le Fils de l'homme descendu du ciel, donnant sa vie pour le monde, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le chapitre 7 place devant nous le Seigneur Jésus comme rejeté sur la terre et prêt de prendre sa place en haut, afin de pouvoir, de la gloire, donner le Saint-Esprit pour être son témoin dans les croyants sur la terre jusqu'au jour de sa manifestation. Ainsi, tandis que les vérités du chapitre 6 sont fondées sur l'incarnation et la mort de Christ, au chapitre 7, elles découlent de son ascension. L'ascension implique nécessairement une rupture complète avec le monde. Aussi, le chapitre s'ouvre-t-il par le refus du Seigneur de prendre part publiquement aux affaires du monde. Versets 1 à 9. Citation de l'Écriture. Et après ces choses, Jésus se tenait en Galilée, car il ne voulait pas se tenir en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, celle des tabernacles, était proche. Ses frères lui dirent donc : Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais, car nul ne fait quelque chose en secret et ne cherche à être lui-même publiquement connu. Si tu fais ces choses, montre-toi au monde toi-même. Car ses frères ne croyaient pas en lui non plus. Jésus donc leur dit : Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut pas vous haïr, mais il me hait, parce que moi je rends témoignage de lui que ses œuvres sont mauvaises. Vous, montez à cette fête. Moi, je ne monte pas à cette fête, car mon temps n'est pas encore accompli. Leur ayant dit ces choses, il demeura en Galilée. Fin de citation. L'enseignement du chapitre est introduit par la déclaration que la fête des Juifs, celle des tabernacles, était proche. Il y avait trois grandes fêtes en Israël. La Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. La Pâque, type de la croix, a été accomplie. La fête de la Pentecôte, qui présente en image la descente du Saint-Esprit, a également eu son accomplissement. La fête des tabernacles était la dernière fête de l'année juive. À cette occasion, les fils d'Israël devaient habiter pendant 7 jours sous des tentes, se souvenant qu'ils avaient été des pèlerins dans le désert. Mais elle témoignait aussi du fait que les promesses étaient accomplies et que le peuple était établi dans le pays et en sécurité. Lévitique 23, versets 33 à 43. La fête était célébrée après la moisson et la vendange, qui, toutes les deux, sont employées dans les Écritures comme image du jugement. Apocalypse 14, versets 14 à 20. Ainsi, la bénédiction terrestre dont parle la fête des tabernacles ne sera atteinte qu'à la suite du jugement d'Israël et des nations. Il est donc évident que la signification typique de cette fête n'a pas encore trouvé son accomplissement. L'occasion de la fête des tabernacles fournit une introduction appropriée aux grandes vérités de ce chapitre. En effet, la mention de la fête soulève la question : pourquoi cette fête n'a-t-elle pas encore eu son accomplissement ? La réponse est claire : celui qui seul peut apporter la bénédiction présentée en figure par la fête a été rejeté par Israël et par le monde. Dans le cours du chapitre, cette réjection de Christ par toutes les classes devient de plus en plus évidente et déterminée. Ses frères ne croient pas en lui. Verset 5. La foule l'accuse d'avoir un démon. Verset 20. Les Juifs s'étonnent à son sujet et cherchent à mettre la main sur lui. Versets 15, 25 et 30. Et les chefs de la nation envoient des huissiers pour le prendre. Verset 32. Au chapitre 6, déjà, nous avons vu que chaque nouveau développement de la vérité avait entraîné une nouvelle diminution de ses disciples. La foule n'avait pas voulu de lui. Chapitre 6, verset 36. Puis, dans le cercle plus restreint des Juifs, il est rejeté. Chapitre 6, verset 41 et 42. Dans le groupe encore plus petit des disciples, plusieurs d'entre eux ne marchent plus avec lui. Chapitre 6, verset 61 à 66. Et même parmi les 12, l'un est démasqué comme étant un diable. Chapitre 6, versets 70 et 71. Au chapitre 7, comme nous l'avons vu, Ses propres frères, selon la chair, ne croyaient pas en lui. Logiquement, nous pourrions penser que le fait d'être lié au Seigneur par les liens de la nature devait représenter un grand avantage. Hélas, ce passage montre que sa propre parenté était aussi incrédule que les autres. S'il ne croyait pas, nous savons que la cause de cette incrédulité n'était pas en lui. Les paroles prononcées par le Seigneur lui-même se trouvaient vérifiées. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. Ainsi, plus les vérités que le Seigneur révèle sont élevées, plus sa réjection par le monde est grande, moins le nombre de ses disciples est élevé, et plus son sentier sera solitaire, jusqu'au moment où, finalement, nous lisons, chacun s'en alla à sa maison, et Jésus s'en va seul à la montagne des Oliviers. Chapitre 7, verset 53, chapitre 8, verset 1. Tel fut le cas alors, et il en a toujours été ainsi. Plus la vérité est profonde, plus il faut de spiritualité pour l'apprécier. Ceux qui marcheront à sa lumière seront de moins en moins nombreux, et le chemin de ceux qui apprécient la vérité deviendra de plus en plus solitaire. L'enseignement de l'esprit ne laisse pas de place pour la chair. Le chemin de Christ est un sentier étroit. Pour les frères, selon la chair, de Jésus, si quelqu'un a reçu des pouvoirs extraordinaires, il est tout à fait légitime qu'il s'en serve pour acquérir dans le monde une place qui soit à son propre avantage et pour le profit d'autrui. Derrière leur raisonnement naturel se cachait l'incrédulité de leur cœur. Ils ne croyaient pas en lui. La réponse du Seigneur montre que, puisqu'il a été rejeté, le temps de sa manifestation publique au monde ou de sa participation à ses affaires n'était pas venu. Lorsque le Seigneur interviendra publiquement, ce sera en jugement. Si, à ce moment, il avait pris une part publique dans la nation, selon le désir de ses frères, cela aurait signifié le jugement pour le peuple. Pendant le temps du rejet de Christ, nous devons nous aussi veiller à ne pas utiliser nos facultés naturelles ou nos dons spirituels pour nous glorifier devant les hommes ou dans le monde religieux. Les croyants à Corinthe étaient tombés dans ce piège. Ils se servaient de leurs dons spirituels pour s'élever devant le monde. Paul doit leur dire « Vous êtes rassasiés, vous êtes riches, vous avez régné. » 1 Corinthiens 4, verset 8. Il les condamne à cet égard. Le temps n'était pas encore venu pour Christ d'intervenir dans les affaires publiques de ce monde. Soyons donc assurés que ce n'est pas le moment pour ses disciples de le faire. Si nous sommes conscients d'avoir l'approbation du Seigneur, nous ne rechercherons ni ne désirerons celle du monde, religieux, social ou politique. Mais pour ceux qui sont du monde, leur temps est toujours prêt. Si nous aimons le monde et les choses qui sont en lui, le monde nous aimera. Si nous parlons comme étant du monde et de ce qui le concerne, le monde sera toujours disposé à nous écouter. Un témoignage à sa méchanceté, rendu par quelqu'un qui se tient séparé de lui, attirera sa haine. Tel fut le cas pour le Seigneur, de la manière la plus prononcée et la plus absolue. En outre, c'est Christ que le monde hait. Plus le croyant manifestera Christ, plus la haine du monde sera excitée. Chapitre 15, versets 18 et 19. Versets 10 à 36. Citation de l'Écriture. Mais lorsque ses frères furent montés, alors lui aussi monta à la fête, non pas publiquement, mais comme en secret. Les Juifs, donc, le cherchaient à la fête et disaient « Où est cet homme ?» Et il y avait une grande rumeur à son sujet parmi les foules. Les uns disaient « Il est homme de bien. » D'autres disaient « Non, mais il séduit la foule. » Toutefois, personne ne parlait ouvertement de lui, par crainte des Juifs. Mais comme on était déjà au milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs donc s'étonnaient, disant « Comment celui-ci connaît-il les lettres, vu qu'il ne les a point apprises ?» Jésus donc leur répondit et dit « Ma doctrine n'est pas mienne, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra de la doctrine, si elle est de Dieu ou si moi je parle de par moi-même. » Celui qui parle de par lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé Celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul d'entre vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit et dit, « Tu as un démon, qui cherche à te faire mourir ?» Jésus répondit et leur dit, « J'ai fait une œuvre, et vous vous étonnez tous. C'est pourquoi Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle soit de Moïse, mais elle est des pères. Et vous circoncisez un homme en un jour de sabbat. Si un homme reçoit la circoncision en un jour de sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, êtes-vous irrité contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier en un jour de sabbat? Ne jugez pas sur l'apparence, mais portez un jugement juste. » Quelques-uns donc de ceux de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas celui qu'il cherche à faire mourir? Et voici, il parle librement, et ils ne lui disent rien. Les chefs auraient-ils vraiment reconnu que celui-ci est le Christ? Mais nous connaissons celui-ci, et nous savons d'où il est. Mais lorsque le Christ viendra, personne ne sait d'où il est. » Jésus donc criait dans le temple, enseignant et disant, « Et vous me connaissez, et vous savez d'où je suis, et je ne suis pas venu de par moi-même, mais celui qui m'a envoyé est véritable, et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc à le prendre, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Et plusieurs d'entre la foule crurent en lui et disaient, « Le Christ, quand il sera venu, fera-t-il plus de miracles que celui-ci n'en a fait ?» Les pharisiens entendirent la foule murmurant ces choses de lui, et les pharisiens et les principaux sacrificateurs envoyèrent des huissiers pour le prendre. Jésus donc dit, « Je suis encore pour un peu de temps avec vous, et je m'en vais à celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, et vous ne me trouverez pas. Et là où moi je serai, vous, vous ne pouvez venir. » Les Juifs donc dirent entre eux, « Où celui-ci va-t-il aller, que nous ne le trouverons pas? Va-t-il aller à la dispersion au milieu des Grecs et enseigner les Grecs? Quelle est cette parole qu'il a dite, « Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et là où moi je serai, vous, vous ne pouvez venir. » Fin de citation. Ayant rendu témoignage à sa rupture avec le monde, le Seigneur monte à la fête, non pas publiquement, mais comme en secret. Il ne se rend pas à Jérusalem pour prendre une place publique dans le monde, mais il y monte afin d'attirer les individus hors du monde. Une telle attitude du Seigneur, comme étant dans le monde, mais non pas du monde, suscite une grande rumeur parmi les foules. Certains reconnaissent qu'il est pour le moins homme de bien. D'autres le qualifient avec mépris de séducteur. Bien que le Seigneur ait refusé de faire usage de sa grande puissance pour gagner l'approbation du monde, et n'ait pas voulu intervenir dans les affaires du monde parce que son temps n'était pas encore venu, il continuait toutefois d'enseigner. Nous lisons « Jésus monta au temple et il enseignait. » Dans les versets qui suivent, nous trouvons d'importantes instructions concernant son enseignement et, en fait, tout enseignement. Qu'un homme qui n'avait jamais été instruit dans leurs écoles possède une telle connaissance des lettres constituait une cause d'étonnement pour les Juifs. Cela amène le Seigneur à donner un test pour tout vrai enseignement. Quelle est sa source? Est-elle humaine ou divine? L'enseignement du Seigneur venait du Père qui l'avait envoyé. Rien ne fait sortir le Seigneur de la position qu'il avait prise comme l'envoyé. S'il monte à la fête, ce n'est pas pour créer l'étonnement par un étalage de savoir, mais afin de rendre témoignage à celui par qui il avait été envoyé. De plus, le vrai enseignement impose un test à l'auditeur. Si donc la doctrine du Seigneur vient du ciel, une bonne condition d'âme sera requise pour la recevoir. La promptitude à faire la volonté du Père préparera l'âme à reconnaître ce qui est de Dieu. Si nous désirons connaître, nous devons être disposés à faire. Rien ne rend aussi efficacement aveugle à la vérité que l'opération de notre volonté. Combien la vérité nous paraîtrait simple et notre chemin serait clair si nous n'avions pas d'autre désir que de faire sa volonté. Et puis, le vrai enseignement impose un test à celui qui parle. Cherche-t-il à se glorifier lui-même ou à glorifier celui qui l'a envoyé? Chez quelqu'un qui cherche sa propre gloire, même s'il annonce la vérité, le motif n'est pas pur. Celui qui, dans son enseignement, cherche uniquement la gloire de Dieu, est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Ainsi, nous avons un test pour la doctrine, verset 16, pour l'auditeur, verset 17, et pour celui qui parle, verset 18. Dans le cas du Seigneur, la doctrine était parfaite. Celui qui enseignait était parfait. Le défaut se trouvait chez les auditeurs. Les versets qui suivent montrent la terrible condition de la nation, rendue par là incapable de recevoir la vérité. Les Juifs se vantaient de la loi qu'aucun d'entre eux ne gardait. Rien ne démontre mieux leur mépris flagrant de la loi que le fait qu'ils cherchaient à faire mourir celui au sujet duquel Moïse avait écrit. Ils sont ainsi convaincus qu'ils n'ont pas le moindre désir de faire la volonté de Dieu, d'où leur ignorance de la doctrine du Seigneur. Les Juifs qui étaient montés à Jérusalem pour la fête ne savaient apparemment pas que les chefs cherchaient à faire mourir le Seigneur. Néanmoins, ils accusent d'avoir un démon, celui qui refusait de prendre une position publique et cherchait uniquement la gloire de Dieu. Tel est le monde. Refuser de participer à ses affaires, ne pas vouloir s'élever soi-même, mais chercher seulement la gloire de Dieu, est aux yeux du monde non seulement contre nature et inhumain, mais diabolique. Le Seigneur garde le silence face à cette accusation violente et méchante. Cependant, il reprend ces Juifs pour leur folie et leur hypocrisie. Ils condamnaient le Seigneur pour avoir fait une bonne œuvre en guérissant un homme tout entier un jour de sabbat. Par là, ils se condamnaient eux-mêmes. En effet, ils pratiquaient la circoncision le sabbat. Puis le Seigneur dénonce le fondement de leur faux jugement. Ils avaient jugé sur les apparences et sans direction divine. Un jugement juste ne peut être obtenu qu'en cherchant la volonté de Dieu. Les paroles claires du Seigneur suscitent la surprise des hommes de Jérusalem qui savaient que les conducteurs cherchaient à le faire mourir. Serait-ce peut-être que les chefs commençaient à croire qu'il était véritablement le Christ? Quelle que soit la conclusion des chefs, les Juifs disent simplement « Nous connaissons celui-ci et nous savons d'où il est ». Ils le considéraient seulement comme un Galiléen de la ville méprisée de Nazareth, tandis que, selon leur pensée traditionnelle, lorsque le Christ viendra, personne ne sait d'où il est. Dans sa réponse, le Seigneur ne s'arrête pas pour dénoncer l'erreur de leur vue traditionnelle, ni pour leur rappeler qu'il était né de la Vierge à Bethléem selon les Écritures. De telles vérités, aussi convaincantes soient-elles, n'auraient pas changé leur volonté ni ôté leur incrédulité. Suffisamment de signes avaient été donnés pour prouver qu'il était une personne divine et qu'il était envoyé par celui qui est le véritable. « Et vous ne le connaissez pas », ajoute le Seigneur d'une manière significative. En ceci résidait le secret de toute leur opposition à Christ. Ils ne connaissaient pas Dieu. La poursuite de leur volonté et de leur propre gloire les avait plongés dans les ténèbres, et celle-ci les laissait dans l'ignorance de Dieu. Tel a toujours été le cas depuis la chute. Même le chrétien passe invariablement à côté de la pensée de Dieu s'il est occupé à s'élever et à faire sa propre volonté. Le Seigneur, qui a cherché non pas sa propre volonté, mais uniquement la gloire et la volonté de celui qui l'a envoyé, peut dire de la manière la plus absolue « Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Les paroles du Seigneur ont un double effet chez les auditeurs. Chez certains, elles manifestent la haine de leur cœur, de sorte qu'ils cherchaient à le prendre. D'autres sont amenés à se demander « Le Christ, quand il sera venu, fera-t-il plus de miracles que celui-ci n'en a fait ?» Entendant ce que la foule disait de Christ, les pharisiens sont convaincus qu'il est nécessaire d'intervenir publiquement contre lui. Aussi envoient-ils des huissiers pour le prendre. Leur activité pour chercher à se débarrasser de Christ était inutile. En effet, le Seigneur dit « Je suis encore pour un peu de temps avec vous et je m'en vais à celui qui m'a envoyé. » Le résultat serait terrible pour la nation, car, parlant de sa nouvelle place auprès du Père, Le Seigneur déclare, là où moi je serai, vous, vous ne pouvez venir. Ceux qui n'ont pas voulu de Christ, quand il est venu vers eux sur la terre, ne seront jamais avec Christ dans sa nouvelle place auprès du Père au ciel. Ayant rejeté Christ comme descendu du ciel, les Juifs ne veulent naturellement pas croire qu'il retourne au ciel. Par conséquent, ils prétendent qu'il va probablement aller à la dispersion au milieu des Grecs et enseigner les Grecs. Toutefois, la chose est si étrangère à leur pensée qu'ils admettent ne pas comprendre ces paroles. Versets 37 à 53. Citation de l'Écriture. Et, en la dernière journée, la grande journée de la fête, Jésus se tint là et cria, disant, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. » Or, il disait cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule, donc, ayant entendu cette parole, disaient « Celui-ci est véritablement le prophète. » D'autres disaient « Celui-ci est le Christ. » D'autres disaient « Le Christ vient-il donc de Galilée ? L'Écriture n'a-t-elle pas dit que le Christ vient de la semence de David et de la bourgade de Bethléem où était David ? » Il y eut donc de la division dans la foule à cause de lui. Et quelques-uns d'entre eux voulaient le prendre, mais personne ne mit les mains sur lui. Les huissiers donc s'en vinrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent « Jamais homme ne parla comme cet homme. » Les pharisiens donc leur répondirent « Et vous aussi êtes-vous séduits ? Aucun d'entre les chefs ou d'entre les pharisiens a-t-il cru en lui ? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi est maudite. » Nicodème, qui était l'un d'entre eux, leur dit « Notre loi juge-t-elle l'homme avant de l'avoir entendu et d'avoir connu ce qu'il fait ?» Ils répondirent et lui dirent « Et toi, es-tu aussi de Galilée ? Enquière-toi et vois qu'un prophète n'est pas suscité de Galilée. » Et chacun s'en alla dans sa maison. Fin de citation. Le Seigneur ne continue pas à s'entretenir davantage avec ces Juifs qui le rejetaient et avaient pleinement manifesté leur ignorance de Dieu. Toutefois, il profite de ce qu'il ne reconnaissait pas ses droits pour parler du nouvel ordre de bénédiction qui allait être introduit par son ascension. La dernière journée de la fête indique des choses nouvelles et célestes. Comme nous le savons par le Lévitique, il s'agissait du huitième jour. Les sept jours de la fête parlent en figure de la bénédiction terrestre complète sous le règne de Christ. Le huitième jour semble faire allusion en image à un ordre de bénédiction placé en dehors de la terre et au-delà du temps. Cette bénédiction nouvelle et céleste serait introduite par la glorification de Jésus et la venue sur la terre du Saint-Esprit. Cette nouvelle bénédiction ne peut pas être limitée aux Juifs. Elle est ouverte à quiconque éprouve le besoin de venir à Christ. Celui qui vient ainsi ne serait pas introduit immédiatement dans les bénédictions millénaires de la terre, mais serait amené dans des bénédictions plus élevées et célestes par le don du Saint-Esprit. En outre, il deviendrait une source de bénédiction pour autrui, car le Seigneur dit au sujet du croyant que non seulement ses propres besoins individuels seraient satisfaits, mais que des fleuves d'eau vive couleront de son ventre pour en rafraîchir d'autres dans ce monde stérile. Nous avons là l'enseignement central du chapitre, la glorification de Jésus comme homme dans le ciel et le Saint-Esprit donné aux croyants sur la terre. Cela signifie que, le Messie étant rejeté, son règne universel et l'accomplissement des promesses terrestres sont remis à un jour encore futur. Dans l'intervalle, le christianisme est introduit. Ici, toutefois, la bénédiction en vue est celle du chrétien individuel. Les paroles du Seigneur donne une illustration remarquable de ce que peut faire un croyant dans la puissance de l'Esprit. Notre connaissance expérimentale de la bénédiction dépend beaucoup de notre soumission à l'Esprit. Cependant, il est possible aux croyants remplis de l'Esprit d'être un canal de bénédiction dans un monde plein de besoins, comme des ruisseaux d'eau sur la terre sèche. Ésaïe 44, verset 3. Hélas, ces paroles merveilleuses n'ont apparemment pas touché la conscience des auditeurs, quand bien même elles ont produit une impression qui conduit à des spéculations parmi la foule. Plusieurs disaient « Celui-ci est véritablement le prophète ». D'autres affirmaient « Celui-ci est le Christ ». Certains demandaient « Le Christ vient-il donc de Galilée ?» La spéculation humaine dans les choses divines est toujours en défaut. Ainsi, ils en viennent à séparer des vérités que Dieu a unies et imaginent que le prophète et Christ sont des personnes différentes. De plus, les spéculations vaines sont souvent trompées par les apparences. Ainsi, parce que le Seigneur était venu de Galilée, ils en déduisent qu'il n'était pas de la semence de David et qu'il n'était pas né à Bethléem. Une conscience exercée aurait éveillé un sentiment de besoin et amené l'âme à Christ en réponse à son invitation pleine de grâce « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » À cette époque, comme si souvent depuis ce jour, même parmi les vrais croyants, les spéculations au sujet de Christ conduisirent à de la division à cause de lui. De plus, non seulement des spéculations sont suscitées, mais l'hostilité se manifeste. Quelques-uns d'entre eux voulaient le prendre. Son temps n'était pas encore venu et personne ne mit les mains sur lui. Au début du chapitre, son temps n'était pas encore venu pour une part publique dans le monde. Ici, son temps n'était pas encore venu pour être livré entre les mains des hommes et crucifié. Dans les derniers versets, nous apprenons qu'un certain travail de conscience s'est produit tant chez les huissiers que chez Nicodème. Pour les huissiers, c'était peut-être seulement la conscience naturelle qui sentait le poids des paroles du Seigneur si différentes de celles de leur propre docteur. Leur témoignage à la puissance des paroles du Seigneur leur vaut une riposte méprisante. Quant à Nicodème, bien qu'il ne confesse pas Christ à ce moment-là, il se risque à prononcer une parole en faveur de la loi et de l'ordre. La loi interdisait de condamner un homme avant que des preuves soient produites concernant ce qu'il avait dit et fait. Tout de suite, Nicodème s'attire la réponse sarcastique qu'il est lui aussi un de ceux qui ont suivi Jésus depuis la Galilée. Cela sous-entend qu'il n'y a nul besoin de l'entendre ou de s'enquérir de ce qu'il a fait. Il venait de Galilée et s'est considéré comme suffisant pour écarter toute prétention à être le prophète, car, disent-ils, un prophète n'est pas suscité de Galilée. Les faibles protestations des hommes ne servent à rien contre la marée montante de l'inimitié, bien que l'homme ne puisse rien faire avant que son temps soit venu. Aussi, lisons-nous, chacun s'en alla dans sa maison, laissant le Seigneur poursuivre son chemin solitaire. Jésus s'en alla à la montagne des Oliviers.